Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur Radio Présence Figeac 97.7. Une nouvelle émission des Mille et Une Bulles avec, comme à chaque fois, une interview d'un dessinateur ou d'un scénariste. Cette fois-ci, c'est un dessinateur. Il s'appelle Thierry Robin. Thierry Robin, merci d'être parmi nous. Comment allez-vous ?
Ah ben, très bien. Merci de votre invitation. Tout va très bien.
Écoutez, ça fait plaisir. Donc, la question à chaque fois que je pose à mes invités, dans votre enfance, est-ce qu'il y a des BD qui ont, ou des auteurs de BD qui ont bercé votre enfance ou qui, à la limite, vous ont donné envie d'être dessinateur ?
Oui, oui. Ah ben, y a mille références, mais en tout cas, je sais assez précisément ce qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est quand j'avais 8-9 ans, ma mère m'a acheté deux recueils du journal de Spirou. Vous savez, c'est les gros recueils avec une douzaine de numéros. Et donc, il y avait deux recueils comme ça avec Maurice, Franquin, Robin, de Liège, voilà, tous ces gens absolument fascinants. Et donc, j'ai dévoré ces deux, même les oncles Paul, enfin, toutes les bandes dessinées à l'intérieur de ce magazine m'ont fasciné. Et puis, j'ai dit à mes parents, ben voilà, j'ai envie de faire de la bande dessinée. Ils ont été d'accord. Donc, tout s'est passé de façon assez facile. Et puis après, effectivement, j'ai découvert mille autres auteurs, qu'ils soient franco-belges ou américains. Et puis chinois par la suite, mais on en parlera plus tard.
Oui, tout à fait, on en parlera plus tard. Donc voilà, c'est vraiment en découvrant Spirou et tout que ça vous a donné envie, en fait.
Exactement. Et puis après, mon rêve, ça a été de publier dans Spirou, ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc,
rêve accompli, oui.
La boucle fut bouclée.
Exactement. Et donc, je sais qu'à l'époque aussi, vous êtes passé par les Beaux-Arts de Reims et vous avez fait 3 ans de spécialisation dans le dessin animé, si je me souviens bien. Racontez-nous cette époque.
Oui, oui, oui. Ben, ils étaient assez pionniers, les Beaux-Arts de Reims, parce qu'on avait un enseignement classique de perspective, anatomie, peinture à l'huile et tout ça. Mais il y avait aussi des ateliers où il y avait bande dessinée, dessin animé. Donc, je me dis, tiens, peut-être que l'animation, ça peut être une corde de plus à mon arc pour le futur. Ça ne m'a jamais servi. J'ai fait de l'animation pendant quelques années, effectivement. Et quand je suis arrivé à Paris pour trouver du travail, je me suis plus orienté pour faire de la bande dessinée.
D'accord, oui. Mais vous avez apprécié cette époque du dessin animé ?
Oui, oui, c'était très... Bah, j'ai appris mille trucs. Décomposer un mouvement, je pense que... trouver des dessins clés les plus expressifs pour un personnage, c'est indispensable en dessin animé, mais c'est aussi très utile dans la bande dessinée. Donc, il y avait ces deux techniques très différentes. Hein. Faire du cinéma et de la bande dessinée, ça n'a rien à voir. Mais il y avait des passerelles entre les deux qui m'ont été utiles.
D'accord, oui, c'est vrai, c'est pas la même chose, mais j'avoue, j'apprécie les deux. Du coup, donc votre toute première BD, dites-moi si je me trompe, c'était donc Crève le Malin, aux éditions Rackham à l'époque. C'était en 1990 et vous aviez été nommé à l'époque dans les Indispensables d'Angoulême, c'est ça ?
Oui. Alors avant, c'était l'époque bénie où il y avait encore plein de petits magazines. Les éditions Fleurus avaient quelques magazines comme ça où j'ai pu faire des histoires complètes, des gags... des oncles Paul dont on parlait tout à l'heure. Donc ça m'a permis d'apprendre le métier en étant publié dans des petites publications, en étant payé. Maintenant c'est plus guère possible, il faut faire des livres tout de suite. Et puis quand j'ai senti que j'avais quelque chose à raconter d'un peu personnel, voilà, j'ai été frappé à la porte des éditions Rackham avec ce projet assez curieux sur la vie du Vatican. Voilà, c'est à peu près ça, le nœud de l'histoire.
Oui, mais j'avoue particulièrement, ça m'avait inspiré à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Et ensuite, vous aviez donc, on vient tout à l'heure à votre amour pour la Chine, donc on va parler de votre série. Pour moi, c'est une série phare et même indispensable au milieu de la BD. C'est votre série Rouge de Chine chez Delcourt. C'était entre 91 et 96, vous avez fait 4 albums, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Eh ben, merci d'apprécier ce travail ancien.
Mais que ce soit le texte ou les dessins, c'est magnifique. Franchement, je vous le dis, je le dis vraiment consciemment, c'est magnifique. Et je me suis replongé en faisant votre interview et j'ai toujours autant aimé, même des années après.
Ah ben, très bien. Moi, j'ouvre plus trop ces livres-là parce que je ne vois que des défauts, mais en tout cas, j'apprécie ce que vous dites. C'est assez... Après ma découverte de Spirou, quelques années après, il y a eu la découverte de la Chine, qui s'est fait via par un film qui s'appelle « Le cerf-volant du bout du monde », qui avait été diffusé dans l'école de mon village, et qui est un film de 1958 qui raconte l'aventure de petits Français qui sont propulsés dans la Chine de cette époque-là. Et ça m'avait absolument fasciné. Donc je m'étais dit, eh ben, aussitôt que je serai adulte, que j'aurai un peu d'argent, j'irai voyager en Chine, ce que j'ai fait, donc à la fin 90. Et ces voyages, plus de la documentation, plus un fil historique qui raconte les guerres de l'opium du 19e siècle entre les pays européens et la Chine, ça a été la base pour mon travail pour faire Rouge de Chine. Voilà, que j'ai proposé à plusieurs éditeurs, beaucoup étaient d'accord, et puis j'ai choisi Delcourt, qui était encore un petit éditeur, mais très enthousiaste. Et donc,
vous êtes allé en Chine pour faire un sorte de carnet de voyage, c'est ça?
Oui, en fait, c'était aussi, il faut se remettre dans cette époque où la bande dessinée avait une vision de certains pays étrangers, et en particulier de la Chine, encore très un peu caricaturale, avec c'était plus Bud Dany quand même avec les Chinois peints en jaune, mais on était encore un petit peu dans cet état d'esprit. Donc mon but, c'était d'aller sur place et de me remplir de choses vues, vécues, pour essayer de transcrire ce pays avec un peu plus d'authenticité que mes prédécesseurs.
Alors, je me suis renseigné avec mon ami Google, bien sûr. C'est vrai que vous parlez chinois?
Oh, très mal, très mal. Mais...
Quelques bribes?
Oui, quelques... Je ne le lis pas et je ne l'écris pas, parce que c'est encore une difficulté supplémentaire. Ah oui, mais évidemment, avec les voyages, et puis surtout par le fait que j'y ai habité 5 ans, là, récemment, donc il fallait... par politesse, puis pour acheter des choses sur le marché, voilà, j'ai un petit bagage de chinois pour me permettre ça.
Ah d'accord, vous avez vécu récemment en Chine encore, c'est ça?
Oui, c'est pas sur la page Wikipédia, mais on pourra en parler après, oui.
Ah oui, ça m'intéresse, oui, c'est passionnant, c'est une autre culture, quoi, c'est pas comme ici.
Ah oui, puis surtout, je ne brûle pas les étapes, mais c'était pour faire des livres de bande dessinée pour des éditeurs chinois, donc... Ça, c'était quand même un sacré défi.
Et vous y êtes arrivé?
Oui.
Ah, j'avoue, je ne savais pas, vous voyez. Google, il m'a pas tout dit.
Oui. Il faut que je modifie cette page Wikipédia, parce que effectivement, ces éléments-là manquent un peu. Et c'est super intéressant. Enfin, mais est-ce qu'on reprend le fil historique, ou je vous parle de ça maintenant?
Oui, allez-y, oui, ça m'intéresse.
Ah, bah, très bien. Oui. Bah, donc, voilà, Le fait d'être un peu amoureux de ce pays est quand même assez difficile, parce que c'est, par exemple, après mes premiers voyages en Chine, il y a eu les événements de la place Tiananmen qui étaient extrêmement violents et qui remettent en question l'intérêt qu'on peut avoir pour un pays comme ça. Donc voilà, il y a eu des va-et-vient avec mes voyages et mon intérêt pour ce pays. Il y avait aussi l'envie de traiter d'autres sujets. Par exemple, là, j'ai fait une série qui s'appelait Koblenz, qui est beaucoup plus européenne et fantastique, plus d'autres livres. Voilà, j'ai travaillé pour Spirou après, donc avec Lewis Trondheim, on a fait une série qui s'appelait Petit Père Noël pour les tout-petits-enfants, et puis avec Fabien Nury, j'ai fait 2 livres sur la Russie, et l'URSS avec la mort de Staline. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai reçu par mail la proposition d'un éditeur chinois qui avait vu enfin, 30 ans après, Rouge de Chine, et qui me proposait de faire un livre directement pour le marché chinois.
Bien.
Et cet éditeur-là, c'était une province, c'est la province du Guizhou, qui est dans le sud de la Chine, et qui a sur son territoire une espèce de petite cité interdite qui a été détruite au cours d'une guerre et qui est passée à nommée à l'UNESCO comme trésor terrestre. Et ils avaient envie d'un dessinateur avec un style étranger qui raconterait l'histoire de cette forteresse, qui s'appelle Heilongtun. Et donc, J'ai fait quelques voyages pour rencontrer les éditeurs et tous les notables et les membres du Parti communiste, parce que voilà, tout ça va ensemble dans ce pays-là. Et puis, il y a eu une négociation sur... principalement négociation sur savoir quelle liberté j'aurais pour faire ce livre. Et puis, le contrat a été signé. Et puis, quelques temps après, avec ma famille, on s'est dit, avec ton contrat en poche, pourquoi on n'irait pas tous habiter en Chine pendant quelques temps, histoire de faire ce livre sur place.
Oui, autant être sur possible. Place. Quelle ville vous avez habité ?
À Shanghai, principalement.
Ah, carrément, d'accord. Ah, mais c'est immense, Shanghai. En fait, c'est ce qu'on voit à la télé. Mais,
Shanghai, c'est la moitié de la France en population. Hein. Donc, c'est 26 millions d'habitants. Enfin, Pékin et Shanghai, c'est pratiquement la population de la France. C'est des villes absolument énormes. Enfin, 11 millions de personnes prennent le métro tous les jours dans ce pays. Enfin, il faut multiplier les chiffres par...
Et ça, mais justement, Shanghai, c'est très. Enfin, je veux dire, c'est peut-être aussi étouffant, autant de personnes. Ça n'a pas entaché votre amour de la Chine ?
Non, parce que. Mais non, mais. Moi, je connaissais déjà cette ville telle qu'elle est, donc il n'y avait pas de surprise et j'étais prêt à me frotter à ça. C'est effectivement une ville assez dense, Shanghai. Autant Pékin est extrêmement large, enfin, c'est grand comme la Belgique, hein, Pékin maintenant. Donc on ressent beaucoup moins cette proximité, cette densité de population.
Oui, mais j'avoue, franchement, c'est...
Mais l'expérience que je voulais, c'était vivre au quotidien dans un pays, parce que j'ai beaucoup voyagé, et donc être touriste, c'est passer à côté de mille choses du quotidien des gens, et... y habiter, surtout qu'avec ma famille, on habitait dans des tours où il n'y avait que des Chinois et nous. Et donc, ça permet de voir le pays sous un œil extrêmement différent.
Eh bien, écoutez, franchement, je ne savais pas, ça va être fascinant. On va pas tarder à avoir la pause musicale, parce que malheureusement, ça passe vite à votre compagnie. Ma dernière petite rubrique pour clôturer cette première partie. Est-ce que, Thierry Robin, vous avez d'autres... hobby dans la vie, à part la BD, les livres, est-ce que vous avez d'autres occupations comme la lecture, le cinéma ?
Ben, comme beaucoup d'auteurs de bande dessinée, comme beaucoup de dessinateurs même, je fais de la musique. Mm-hmm. Donc tous mes week-ends, je fais des musiques instrumentales, des chansons avec ma femme qui chante. Y a beaucoup aussi de musiciens qui dessinent. Enfin, c'est un peu la même partie du cerveau qui doit être sollicitée pour les deux choses.
D'accord.
Et voilà, d'où mon intérêt évidemment pour les Beatles qu'on va entendre maintenant, qui sont...
Joli passement. Donc oui, nous allons faire une petite pause. Vous avez choisi donc Now and Then. Excusez-moi pour l'accent, parce que moi je ne suis pas anglophone du tout.
Now and Then, oui, c'est leur dernier morceau. Enfin, c'est un morceau qui vient de sortir, qui est le travail des Beatles survivants sur une chanson de Lennon, qui a été assassinée en 80, donc. Et c'est... Maintenant, on en est sur le dernier morceau des Beatles qu'on pourra avoir. Enfin, voilà, les Beatles sont au-dessus de tout. Pour moi, c'est le plus grand miracle musical du XXe siècle.
Eh bien, écoutez, on va découvrir ça avec plaisir, Monsieur Robin, et on se retrouve juste après. Merci beaucoup.
Parfait.
Présence à Figeac, 97.7.
We must start again.
Et nous voilà de retour donc pour les mille et une bulles, en compagnie cette fois du dessinateur, pardon, Thierry Robin. Donc Thierry Robin, donc nous avons fait le tour de votre carrière, de votre longue carrière. Donc maintenant, comme vous adorez la Chine, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous allons faire donc un portrait chinois. Vous êtes partant ?
Allons-y, allons-y. Voilà.
Donc, on va commencer. Si vous étiez